Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Over, le podcast qui bouscule les clichés sexistes. Dans cet épisode, je reçois à mon micro Mounia Aram, franco-marocaine, spécialiste de l'animation. Elle démarre sa carrière dans cette industrie en 2003. « Je suis une femme issue de la diversité, qui n'a pas de diplôme », disait-elle. Une phrase qui m'a particulièrement marquée et qui m'a donné surtout envie de vous faire découvrir son profil. Parce que oui, on peut être une femme, réussir et prendre sa place sans forcément empiler les diplômes. En 2020, mon invité crée Mounia Aram Company, une société de distribution et de production spécialisée dans l'animation africaine et la culture africaine en général. Son aventure ne s'arrête pas là. En 2020, Mounia Aram est devenue membre de l'Académie des Emmy Awards. Mounia nous livre aujourd'hui un témoignage authentique et sans filtre sur son parcours, ses challenges et ses exploits. Mounia, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci Aziza.
Alors je pense que la première chose qu'on a envie de savoir sur vous, c'est votre enfance. Comment était Mounia enfant, ado ?
Alors là, ça remonte à bien longtemps. Donc moi, j'ai grandi à Trappes, en banlieue parisienne, dans le 78. Et je suis issue d'une fratrie de 6 enfants, je suis la numéro 5. Et j'étais plutôt introvertie, on ne m'entendait pas beaucoup. Surtout à l'extérieur de la maison, mais à la maison j'avais quand même mon caractère. Et entourée de trois filles, donc trois sœurs et deux frères, tous avec des fortes personnalités. Donc évidemment ça forge son caractère et des modèles en fait. Et effectivement j'étais plutôt effacée et discrète. Et j'ai mis du temps à trouver ma voix et ma voix dans les deux sens.
Et est-ce que tu as connu des événements justement pendant ton enfance, des événements marquants qui ont influencé finalement cette envie de te dépasser, d'exprimer ta voix et de sortir des sentiers battus?
Alors une première chose, c'est que le hasard, le destin, on peut l'appeler comme on veut, a fait que je me suis retrouvée à faire de l'improvisation théâtrale et ça m'a aidée à sortir de ma coquille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur était coach de l'équipe de Trappes Impro Junior et elle s'est retrouvée dans l'embarras parce qu'il manquait une fille. L'équipe, en général, est constituée de 3 filles, 3 garçons et le coach. Et là, il manquait une fille pour aller avec eux à Nantes pour une compétition. Et comme moi, j'étais une fidèle spectatrice et supporter, elle était vraiment très embêtée, elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit « mais viens avec nous ». Je pensais qu'elle voulait que je vienne dans le public, mais non, elle voulait que je vienne et que je sois sur scène. Donc j'ai fait « waouh ». Ça a été très très difficile pour moi, mais du coup, il a fallu qu'on me pousse. Et ce petit coup de pied, là, m'a sorti de ma zone de confort. J'ai eu deux, trois entraînements avant de jouer ce fameux match. Et c'était une catastrophe, hein, la première fois, c'était horrible, je n'arrivais pas à porter ma voix, on ne m'entendait pas. Mais l'équipe était très, très solidaire et m'a vraiment soutenue et portée, et j'y ai pris goût. Et puis je suis restée, et on a été champion de France, de junior, et j'ai continué. Et ça, c'est une matière que j'aurais aimé qu'on enseigne à l'école. Moi, je le faisais en dehors, et c'est vrai qu'à Trappes, on avait beaucoup d'activités culturelles, et ça, c'était très bénéfique. Et sinon, oui, après, il y a d'autres événements un peu moins positifs qui font la personne que je suis, en fait. Notre personnalité, je pense, se forge au fur et à mesure des événements et de notre parcours. Et c'est vrai que moi, quand j'avais 23 ans, mon grand frère, à l'âge de 30 ans, avait eu un cancer de l'estomac. Et on a eu très, très peur. Les médecins n'étaient pas très optimistes. On pensait qu'il n'allait pas s'en sortir. Et moi, à ce moment-là, c'est vrai que j'étais anéantie, parce que c'est mon grand frère, et puis je suis très proche de mes frères et sœurs, je les aime tous. Et là, quand on voit ça, si jeune, et on se dit, mais c'est pas possible. Heureusement, il s'en est sorti, il a eu ses traitements, tout s'est bien passé. Mais ça, ça m'a fait penser que la vie est courte, la vie est très courte. Et du coup, tout ce que j'ai entrepris depuis ce moment-là, je l'ai fait en gardant ça en tête. La vie est courte, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, donc vis-la à fond. Et profite de chaque instant, malgré les difficultés, voilà, il faut trouver le positif et rebondir quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive.
Merci pour déjà pour cette belle introduction et je suis tout à fait d'accord avec toi Mounia. Il faut avancer dans la vie, il faut prendre son élan, il faut croire, il faut rester positif, optimiste. Je pense que c'est la meilleure arme qu'on peut avoir quand on vit des coups durs comme l'a vécu votre frère. Alors moi ma question pour toi parce que le sujet du podcast c'est parler des clichés sexistes, des stéréotypes malheureusement auxquels on est soumise autant que femme. Alors souvent quand on arrive à l'âge adulte en tant que femme, on est confronté à des difficultés et des stéréotypes qu'on ne soupçonnait même pas. Alors j'ai entendu votre expérience pendant votre enfance, le fait que vous étiez une fratrie de 4, 6 pardon. L'arrivée à l'âge adulte, Mounia, comment tu l'as vécue? Qu'est-ce qu'elle t'a inspiré? Est-ce qu'elle t'a transformée? Est-ce qu'elle t'a fait peur? Comment tu as vécu les choses?
L'arrivée à l'âge adulte, c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas trop où j'allais en fait en termes d'études. Parce que j'ai eu mon bac péniblement, parce que je ne suis pas une scolaire, j'ai eu un bac L. Je me suis prise à plusieurs fois avant de l'avoir, je l'avoue. Mais grâce à ça, j'ai appris l'anglais, l'espagnol, l'italien, et j'ai gardé toutes ces compétences-là, heureusement. Mais ensuite, arrivé à l'âge adulte, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire professionnellement, parce que pour moi, aller étudier sans perspective professionnelle, c'était compliqué. Donc, j'ai choisi une voie qui m'a permis de rentrer dans cette introspection, parce que je me posais beaucoup de questions, certainement liées à l'adolescence et au fait d'avoir cette double culture. En fait, je me posais des questions sur ma culture, parce que oui, je suis française, mais je suis surtout marocaine. En plus, je suis née à Casablanca, donc je le revendique haut et fort et j'en suis fière. Mais je ne connaissais pas très bien ma culture. Ce n'est pas seulement en étant à la maison avec nos parents qu'on connaît notre culture. Ce n'est pas en allant en vacances un mois dans l'année qu'on connaît notre culture. Et puis, on ne maîtrisait pas très bien l'arabe, donc on se moquait beaucoup de nous aussi là-bas. Donc, je connaissais aussi nos origines, notamment religieuses, etc. Mais j'avais besoin d'en savoir un peu plus. Donc, j'ai choisi mon orientation professionnelle dans cette direction-là, en fait, en mode introspection. Je voulais en savoir plus sur qui je suis et qui nous sommes, en fait. Et donc, j'ai pris l'option arabe-maghrébin et j'ai étudié à l'INALCOL, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et je me suis arrêtée au niveau licence, je n'ai pas eu ma licence, parce qu'au bout d'un moment, j'ai appris énormément. J'ai eu des cours d'islamologie, des cours de dialectologie. C'était hyper enrichissant, mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais de ça? Je fais du journalisme, je fais de l'enseignement, de la recherche, et ce n'était pas moi, en fait. Moi, ce qui me manquait, c'était l'adrénaline de la scène, en fait. Et ça, j'y ai pris goût. Et c'est en ayant touché à ces études-là que je me suis dit, non mais il me manque quelque chose, il me manque une adrénaline en fait. Et c'est vrai que l'impro a joué beaucoup dans ma personnalité, dans ma carrière. Et autre chose, c'est que pendant que j'étais au lycée, je travaillais avec un humoriste, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais bref, il faisait du one-man show et je l'accompagnais dans ses premiers spectacles et j'étais sa costumière. Et ça, je faisais ça pendant le lycée, donc je faisais ça deux soirs par semaine. Je ne gagnais pas grand-chose, hein. C'était pas vraiment pour l'argent, c'était vraiment pour le fun et pour le soutenir. Et il est même parti en tournée au Maroc, je suis allée avec lui, on a fait quelques dates en province. Et après, au moment où sa carrière a décollé, qu'il a commencé à être un peu plus connu, à faire de la télé, à plus avoir besoin de moi, nos chemins se sont séparés, mais vraiment en bonne entente, parce que moi, après, je me suis dit, je vais aller poursuivre mes études. Mais c'est vrai que cette expérience avec lui aussi a fait que j'avais envie de cet univers-là, le spectacle. Voilà, j'avais goûté à cette ambiance-là et je me suis dit, comment je pourrais y aller, comment?
Donc en fait, grâce à ta sœur et à cette
humoriste,
tu as découvert ta passion, ouais. Ta vocation finalement.
Bah en fait, toute petite, c'est un truc que parfois j'ose pas le dire, mais je rêvais d'être actrice en fait, même étant hyper timide, mais une timidité maladive, je rougissais quand on me posait une question, mais je rêvais au fond de moi d'être actrice et de me voir au cinéma et de voilà, je rêvais à ça, mais je n'osais pas toucher à ce rêve parce que je me suis dit c'est pas pour moi. Et c'est vrai que de goûter à la scène via l'impro m'a permis d'y toucher un petit peu, mais
Et pourquoi tu pensais que c'était pas fait pour toi?
Parce que j'avais une appréhension par rapport à affronter les castings et les échecs. Et puis moi, je n'avais pas confiance en moi, surtout, tout simplement. Hein. Et c'était à l'adolescence, quand on n'a pas confiance en soi, qu'on ne se trouve pas super et qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie, qu'on n'est pas bien dans sa peau, on n'a pas envie d'aller tenter quelque chose. Enfin, moi, personnellement, je n'avais pas envie de tenter ça. Et je n'ai pas tenté ma chance.
Et est-ce que ce n'est pas à cause de remarques que tu aurais reçues quand tu étais petite ou ado?
Bah, je pense que...
En tant que fille, déjà, à l'époque?
Ouais, je pense que en tant que fille avec cette personnalité effacée, à force d'entendre que je suis timide, j'entretenais ça. Donc oui, au départ, je l'étais, mais je n'ai pas cherché à en sortir parce que c'était comment me qualifiait mon entourage, en fait. C'est la petite sœur, la timide, la réservée, celle qui fera pas de vagues, voilà, qui est gentille. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais tendance à me déterminer par rapport aux remarques et au point de vue des autres. Et c'est plus tard que j'ai décidé de ne pas écouter les remarques.
Tu t'es rebellée.
Voilà, mais très tard, en fait.
Mais vaut mieux tard que jamais.
Exactement.
Mais du coup, moi, quand je t'entends, je me dis que je suis marocaine aussi. Je suis née à Casablanca et j'ai grandi là-bas donc jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'était dans un quartier populaire et je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Et dans notre culture, malheureusement, on apprend aux filles de se taire, rester à leur place, parce qu'on a cette culture, comme disait Leïla Slimani, du chemin, de la honte. Mmh. Donc une fille qui doit être bien vue, elle doit ne pas lever la voix, elle doit rester à sa place, elle doit être très respectueuse, même si elle a une envie de s'exprimer, ben non, elle doit se taire, elle ne doit pas déranger, elle ne doit pas faire de vagues, comme tu l'as bien dit. Donc moi, personnellement, je considère, et c'est tard que j'ai compris que déjà ces épisodes qu'on a vécu en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, c'était déjà des stéréotypes, du conditionnement et c'est du sexisme finalement. Mmh. Et malheureusement, on grandit avec ça et par la force de l'expérience et des épreuves qu'on endure, on finit par casser cette coquille et se rebeller, comme toi tu l'as bien vécu aussi dans ta carrière et dans ta vie même personnelle. Donc, est-ce que toi, tu considères, peut-être que tu n'es pas du même avis que moi, mais est-ce que tu considères ça comme finalement du conditionnement et sexiste ?
Moi, comme j'ai vécu en France et que mes parents étaient plutôt modernes, nous laissaient d'ailleurs faire de l'impro, voyager, mes sœurs avaient des fortes personnalités. Je pense que moi, ma personnalité, elle a été déterminée aussi par mon positionnement dans la fratrie. Je suis la cinquième. Donc l'avant-dernière, les grandes sœurs ont des fortes personnalités. Moi, j'étais en admiration devant elles et je me sentais pas à la hauteur.
Il y avait une grosse différence d'âge entre vous ?
La plus grande a 10 ans de plus que moi. Et c'est vrai que de les voir, elles, cartonner, la plus grande a fait des super études, travaillé dans la finance, la deuxième dans la mode, et de se dire, waouh. Et moi, je me disais, mais j'y arriverai pas. Elles ont mis la barre haut et pour moi. Et le côté sexisme par rapport à l'éducation, c'est vrai que malgré la modernité de nos parents, il y avait une différence entre les garçons et les filles. Hein. On la sentait, même si elle était relative dans notre famille, mais elle était quand même là, parce que c'est en nous, c'est dans notre culture, effectivement. Mais moi, je pense que c'est surtout mon positionnement dans la fratrie qui a joué.
Plus tard, pour sortir du contexte familial, dans ta carrière, dans ton job, les différentes vies professionnelles que tu as eues, est-ce que tu as connu de sexisme ou des violences ?
Je dirais pas violence. Bon, les propos en eux-mêmes peuvent être violents. Mais oui, il y a eu des épisodes sexistes dans ma carrière, notamment lors d'un entretien d'embauche avec une société. La personne en face de moi, qui était le directeur commercial, qui était avec le DG, le directeur commercial me connaissait et me dit « Est-ce que tu prévois de faire un autre enfant ?» Je dis, pardon, mais tu n'as pas le droit de me poser ce genre de questions. Il me dit, mais si on se connaît, je dis, non, pas en entretien, tu ne peux pas me poser ce genre de questions. Après, moi, j'ai souvent cette technique de défense qui est l'humour. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te préviens quand je suis en train de le faire, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour moi, c'était définitif. Je ne pouvais pas travailler dans cette société. On ne peut pas poser ce genre de questions. C'est sûr qu'aux États-Unis, on ne l'aurait pas posé. Oui. Mais après, il y a eu d'autres remarques sexistes. notamment sur mes tenues, sur le fait que je portais des robes un peu courtes, et que je montrais un peu trop de jambes, alors que voilà, moi aussi, je suis à l'aise dans mon corps, pourquoi le cacher? Et puis, on ne va pas s'arrêter à mon physique, et je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux. Ou d'autres réflexions, d'autres... Il y a eu un geste déplacé une fois, dans une entreprise où je travaillais, j'ouvrais le frigo pour aller prendre une boisson, et il y a un producteur qui est arrivé qui s'est mis à me caresser le dos. Et j'ai pas eu le temps de réagir. Je me suis retournée, il était déjà parti, et je m'en suis voulu de ne pas lui avoir mis une claque. Mais j'ai été tellement surprise parce que ça ne m'était jamais arrivé. En plus, je venais d'arriver dans la société.
Ouais, donc c'était délicat. T'avais peur aussi peut-être pour ton job après.
Après, mon job n'a pas tenu le coup parce que je suis restée juste le temps de la paire d'essais parce que c'était pas de mon fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres réflexions. Du type, tu prévois de mettre des robes à Cannes. J'ai dit, je prévois de mettre des robes si je veux. Ou parler à un client en disant, tu verras, c'est Mounia qui va s'occuper de toi maintenant. Tu perds pas au change. Et je ne savais pas si c'était de la prostitution ou quoi. Mais pour moi, j'étais là pour distribuer des contenus. J'étais pas là pour montrer mon corps pour des clients. Et donc, la façon dont c'était dit, je me suis dit, mais mince, où je suis tombée? Et puis, dans cette même société, là... Un des stéréotypes, c'est tu vas t'occuper du Moyen-Orient, tu les comprends, toi. J'ai dit, ben non, je ne les comprends pas, moi, je ne sais pas de quoi tu parles, je n'ai jamais été au Moyen-Orient.
Ouais, les raccourcis faciles.
Voilà. Arabe, ouais. Non, je suis du Maghreb, ce n'est pas pareil. Et tu parles comme eux. Non, pas du tout. Quand je vais là-bas, je parle anglais. Et je suis quand même allée au Qatar et j'ai réussi à faire des ventes, mais pas parce que je les comprends, mais parce que je suis une bonne vendeuse.
Oui, parce que, voilà. Oui, en fait, c'est exactement justement le sujet du podcast. On va mélanger l'origine de la personne, disons-le, le fantasme de la personne ou de la femme d'origine arabe ou maghrébine, qui est devenu clairement un phénomène ces derniers temps. Moi, j'étais choquée de voir même des influenceuses qui se prétendaient être d'origine maghrébine pour avoir des followers et... alimenter une sorte de fantasme. Bah, raconte tout ce que tu as envie de raconter, parce que justement, c'est exactement ça ce qu'on veut faire, c'est partager un maximum d'histoires pour en tirer des leçons.
Mais celui-là était quand même... parce que comme j'ai multiplié les expériences, bah voilà, l'expérience précédente, effectivement, ça ne l'a pas fait, parce que mon patron s'est mis à m'aboyer dessus, parce qu'il n'était pas content d'une vente que j'ai faite, je l'ai remis à sa place. Je lui dis, tu me parles pas comme ça, ok? Donc, et à partir de ce moment-là, c'était foutu pour moi. Donc il m'a dit, ça va pas le faire. Donc il m'a viré. Bref, c'était un mal pour un bien, comme on dit. Et j'ai travaillé dans une autre société, peut-être qu'ils se reconnaîtront, mais là, j'y suis restée quand même un an. Et c'était comme c'était une boîte qui faisait du doublage, c'était très technique et je comprenais rien. J'étais complètement à la ramasse. Et moi, en général, j'ai pas peur. Je me dis, c'est pas grave, je vais apprendre. Sauf que j'avais une collègue qui n'était vraiment pas contente que je sois là et qui ne voulait pas m'apprendre, qui voulait pas partager. Donc, je lui posais des questions. Je lui dis, ça veut dire quoi? Elle me dit, ben, tu vas douiller, ma cocotte. Et je dis, OK. Et on était dans ce bureau à trois. Et au fond du bureau, il y avait une autre porte avec le bureau du directeur commercial. Donc, il y avait elle et moi qui étions commerciales et l'assistant du directeur. L'assistant du directeur qui était Kabyle. Et elle nous regarde toutes les deux un jour, elle rentre dans le bureau et cette fameuse personne était française, blanche, blonde, elle nous pointe du doigt toutes les deux et nous dit « Vous parlez pas, vous n'avez pas intérêt à parler arabe dans ce bureau ?» Je l'ai regardée, je lui ai dit « Pardon ?» Et la personne qui est Kabyle, je lui dis « Mais de toute façon, elle ne comprend pas l'arabe, donc il n'y a pas de risque. » Et cette personne, je ne sais pas pourquoi... Enfin, si, je me doutais un peu pourquoi, encore un des attributs de certaines femmes de se sentir menacées et d'être en constante compétition, elle m'avait vraiment, vraiment dans le pif, hein, comme on dit. Et un jour, c'était l'épisode incroyable, hein, j'avais jamais vécu ça de toute ma vie, elle débarque au bureau avec une plante. Mais une plante limite un buisson qu'elle a mis entre elle et moi sur son bureau pour pas me voir. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai plein de collègues, hein, qui étaient témoins de ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et un jour, j'arrive au bureau après elle, j'arrive, je m'assois, je dis bonjour. Et je la vois derrière la plante faire des doigts d'honneur. Et là, je me penche pour la regarder, pour lui montrer que j'ai vu. Et là, elle cache ses doigts. Je dis, Ok. Mais là, c'était limite du harcèlement moral, parce que elle se cachait, elle voulait pas me voir, voulait pas voir mon visage, enfin ma gueule, comme on dit. Ma gueule ne lui revenait pas. Et puis surtout, c'est elle qui me faisait des réflexions sexistes, hein, parce que comme mon patron, d'autres patrons habitaient pas très loin de chez moi, et quand on finissait tard, il me proposait de me raccompagner en voiture. Et parce qu'on était à l'autre bout, hein, on était à la plaine Saint-Denis, moi j'habitais dans le 92, et puis il me dit je peux te déposer. Je dis ok, pas de souci. Et le lendemain, dès que je revenais, il me dit alors, ça fait quoi de rentrer avec lui, hein?
Je dis, mais c'est hyper déplacé.
C'est
en fait,
très c'est... déplacé. Et puis elle supportait pas que je sois toute seule dans son bureau, elle sous-entendait des choses. Et moi, j'ai craqué, quoi. Un jour, je l'ai signalé à la direction plusieurs fois en me disant ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Moi, j'en peux plus, ça me rend malade, je rentre chez moi, je suis d'une humeur mais exécrable, parce que je vis cette pression avec cette personne, et la direction n'a rien fait. Donc moi, un jour, je suis arrivée au bureau en pleurant, quoi. Je dis, mais faites quelque chose, quoi. Et ils n'ont rien fait, et finalement, c'est moi qui suis partie.
Donc oui, une lâcheté aussi de la part des ressources humaines qui n'ont pas écouté justement des
Non, mais pour eux, c'était une bagarre entre filles, quoi.
Oui, mais c'est un autre cliché. Mais pour revenir sur ce que tu as vécu avec cette collègue, mais en fait, c'est tout le comble de cette histoire du sexisme. C'est pas juste une question d'hommes.
Non.
C'est une question de femmes entre elles. Et il y a des femmes, et c'est ça ce qui est encore plus dur pour nous les femmes, c'est de vivre et de se prendre des remarques sexistes de la part des femmes. Et aussi dans le cadre pro où... on essaye justement de valoriser nos compétences, de prendre sa place, d'être respecté pour ce qu'on apporte à l'entreprise et non pour notre apparence physique. Et je trouve que c'est hyper dénigrant et dégradant quand on a affaire à ce type de remarques de la part de femmes comme nous qui devraient normalement être plutôt solidaires et dans la sororité. Ce qui m'a aussi marqué, c'est justement... Alors c'est un terme qui est interprété de plusieurs façons, qui est vu aujourd'hui comme étant un terme péjoratif. Je sais que toi, tu as énormément de réserves. Est-ce que c'est pas parce que tu as vécu ces épisodes que tu as pris un peu de recul et de distance par rapport au terme de la sororité et que tu ne veux pas forcément l'assumer ou dire que tu es dans la sororité ?
Pour moi, la sororité, ce sont mes frères et sœurs. Hein. Enfin, c'est tout. J'ai trois sœurs. Pour moi, les épisodes les plus difficiles, c'était la part de femmes. Et les personnes qui m'ont le plus soutenue, ce sont des hommes. Donc effectivement, j'ai un peu de mal avec ça. Après, j'ai un cercle de femmes autour de moi qui sont superbes. Et comme j'ai pu le constater, souvent, ce sont des femmes qui ont confiance en elles. Donc qui ne me voient pas comme une compétition. Je ne les vois pas comme une compétition. Et on arrive à travailler ensemble et à être amies et se valoriser les unes et les autres. Comme ces hommes qui me valorisent aussi, que je valorise. Mais à partir du moment où je me suis retrouvée face à une femme... qui me voyait comme une menace et qui s'est mis à me regarder des pieds à la tête, je savais que j'allais passer un sale quart d'heure. J'en ai eu une, elle m'a présentée à une autre femme en donnant mon âge et ma situation personnelle. Bon, à l'époque, j'avais 40 ans. Elle dit, oui, alors voilà, il y a 40 ans, elle a deux enfants, hein, tu te rends compte? Je dis, mais de quoi je me mêle? Je dis, tu veux que je dise combien tu pèses, toi? Non, mais c'est incroyable, jamais on présenterait un mec comme ça. En plus, dans le cadre du boulot, hein, c'était pas dans un cadre perso, sur un salon, sur un marché... plein festival d'animation, et là, elle me présente comme ça, mais j'étais choquée.
Finalement, moi, quand je t'écoute, je sais que voilà, tu as ton avis sur le terme de la sororité, et le thème de mon podcast et du média Oumnia en général, dans lequel j'agrège justement le podcast Over, c'est pour réconcilier les femmes avec ce terme-là, et promouvoir l'entraide et la solidarité entre femmes. Mais quand je t'entends, je comprends parfaitement justement ton vécu et le fait que voilà, ça a eu des conséquences sur ta perception du mot sororité. Et tu es dans ton droit justement de dire ok, moi je suis plutôt... voilà,
je préfère le mot solidarité.
Voilà. Et ben ça aussi, c'est un beau choix.
Sororité, pour moi, non. Mais solidarité, oui.
Ok. Eh bien, écoute, je respecte tout à fait ton choix. Et justement, on est dans l'authenticité et on dit ce qu'on a envie de dire et de le partager en toute sa sincérité, en toute transparence. Du coup, quand on t'écoute, j'imagine que ces épisodes que tu as vécu, dans le cadre perso ou pro, ont provoqué en toi cette envie peut-être de s'engager ou de porter certaines causes. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est juste mon ressenti ou ma perception ?
Non, ta perception est juste.
Génial.
Tu as une bonne analyse. Effectivement, comme je le disais au début, nos expériences forgent notre personnalité, nos caractères. Et à force d'être confronté à des injustices et des situations compliquées, effectivement, on a envie d'y remédier pour soi. Et quand on est dans l'empathie, on pense aux autres aussi. Et je pense à la personne la plus proche à laquelle je pense, c'est aussi ma fille. Je me dis, mais pour les prochaines générations, moi, je n'ai pas envie qu'elle passe par ce que j'ai vécu. Parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et du coup, ça a fait que j'ai cet engagement, j'ai ce sorte de militantisme aussi pour qu'on ait plus de femmes, notamment dans mon industrie, plus de femmes entrepreneurs. Parce qu'on a cette peur. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai eu du mal. Je ne voulais pas. Au début, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir. Mais c'est un mec, justement, un homme, qui m'a poussée. Qui m'a dit, si, tu peux le faire. Tu peux le faire si tu es prête à te sacrifier, à faire pendant quelques années, à investir du temps, de l'argent, et te dire que tu ne vas pas être rémunérée pendant longtemps, mais tu as la bonne vision, tu as la bonne stratégie, vas-y. Et moi, en l'écoutant, je me suis dit, je vais y aller. Mais je n'aurais pas osé y aller s'il ne me l'avait pas dit. Parce que beaucoup d'autres personnes m'avaient dit, comment tu vas faire? Tu as des enfants. Vaut mieux rester en CDI, c'est plus sûr. J'ai dit, oui, mais c'est plus sûr. Mais comme j'ai dit au début, la vie est courte, hein. Moi je ne m'éclate pas en CDI. Hein. Là je m'éclate, hein, mon entreprise. J'ai ma vision, je mène ma barque. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est moi qui gère. Hein. Et c'est aussi ça que je veux inspirer. Et j'ai pas mal de messages aussi de jeunes femmes qui me disent que ça leur donne envie, ça leur donne la motivation de le faire. Parce que de voir que j'ai osé le faire et que ça marche plutôt bien, eh ben, ça leur donne envie d'y aller. Mais je ne cache pas les difficultés, effectivement. C'est l'ascenseur émotionnel, ça existe, il faut le savoir. Et j'ai une hygiène de vie aussi. Je fais attention à ce que je mange. J'essaie d'aller deux fois minimum par semaine à la salle. Je m'entretiens physiquement, pas pour être jolie en robe, hein, mais surtout parce que c'est un marathon, hein, d'être entrepreneur. Moi, je travaille tous les jours.
Ouais, ça aide à maintenir un mental aussi fort pour...
Exactement, parce qu'il faut tenir physiquement et moralement. Donc, c'est ce que je me suis astreint. Donc, effectivement, je m'offre des petits extras de temps en temps, mais c'est vrai que j'essaie de manger équilibré, de faire du sport, de sortir. Et voilà, c'est un marathon. Mais il faut le savoir. Il faut être fort, il faut être bien entouré. Et c'est vrai que moi, je suis contente d'être bien entourée, d'avoir des gens positifs, parce que quand l'ascenseur émotionnel est en bas, là, c'est dur.
Ah oui, j'imagine. Et aujourd'hui, y a-t-il des compétences spécifiques que tu mets en œuvre pour lutter, par exemple, contre le sexisme? Pas forcément de manière directe, mais je sais pas, dans ton travail, dans tes relations personnelles, est-ce que voilà, tu essayes de combattre le sexisme, tout ça, tous ces clichés à ta façon, et comment tu le fais? Quelles sont les compétences que tu mets en avant?
Alors, une des premières choses, c'est de parler de ce que je fais. Et de montrer vraiment que je ne suis pas une super-héroïne. J'ai réussi à le faire, donc vous pouvez le faire, homme ou femme. Donc, faire passer le message. Et je fais beaucoup de prises de parole sur des tables rondes à travers le monde. Hein, je parle partout. Et l'autre action, c'est dans mes projets aussi, dans les productions africaines, je fais en sorte de travailler un maximum avec des femmes sur le continent. Ou si ce ne sont pas des femmes à la tête des projets, qu'il y ait au moins des personnages féminins très forts dans les dessins animés qu'on va porter à l'écran, parce que ça commence très jeune. Donc quand les enfants vont regarder ces dessins animés, voir des super-héroïnes qui leur ressemblent en plus, ça va les inspirer. Donc il y a ce moyen-là, donc cet outil qui est l'animation. Et il y a une dernière chose que je lance cette année, c'est mon association, donc l'association Mounia Aram, parce que j'adore mon nom.
Bah, tu as raison.
Donc je l'ai fait à l'américaine, hein. J'ai un peu des restes de mon expérience aux États-Unis. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et donc l'association Mounia Aram, le but c'est de financer la formation sur le continent et avec au moins 50% de femmes.
Sur le continent africain.
Sur le continent africain, oui. Pour moi c'est tellement évident que j'ai oublié de le préciser, pardon.
T'as un contenu en particulier que tu nous conseillerais? Nous les femmes, hein, je parle voilà, au nom des femmes.
Alors moi, je suis très série et j'adore les séries avec des femmes fortes. Et une de mes séries préférées, c'est Scandale, avec le personnage d'Olivia Pope, qui est la chef, hein, quand même, hein, c'est elle qui gère toute cette équipe et une femme de caractère. Où, tu sens que voilà, tu peux pas lui faire à l'envers. Hein. Et que ça soit elle qui dirige tous ces gens, toute cette équipe, qui sont quand même des personnalités super fortes et très violentes en plus, mais menées par cette femme qui n'a peur de rien et qui y va à fond. Moi, j'aime bien ces personnalités-là. Et puis, bon, elle me ressemble pas parce que c'est un peu trop violent pour moi. Mais c'est ce genre de je regarde pas, je suis pas très, très film. Ça fait un moment que je regarde pas, mais je suis très cinéma, série, pardon. Et sinon, il y avait aussi, comment elle s'appelle, Viola Davis, que j'aime beaucoup comme actrice. Et la série How to Get Away with Murder, j'adore. Et Annalise Keating, qui, franchement, tu te dis... Dans le genre femme forte, issue de la diversité, là, c'est un beau rôle modèle. Hein. C'est un beau rôle modèle. En plus, elle a connu des épisodes difficiles dans sa vie. Et parce qu'il y a des flashbacks où on voit par quoi elle est passée dans sa vie personnelle. Et c'est aussi ce qui fait qu'elle est une femme aussi forte, une femme à poigne.
Un message pour les femmes qui nous écoutent, Mounia. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, nous les femmes ?
Alors, écoute, moi, je veux leur dire que faut pas croire que c'est pas possible. On peut y arriver. Il faut arrêter de se mettre des freins. Moi, je dis pas que j'ai de la chance. Je suis bien entourée. J'ai mon mari qui me soutient. En fait, il faut avoir le bon cercle. Et le cercle n'a pas besoin d'être grand. Donc un cercle très petit, mais qui est fait de personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent, parce que voilà, c'est un combat, c'est mener une entreprise, c'est pas facile tous les jours, mais c'est possible. C'est possible, même quand on a... Moi, je suis partie avec 0 euro, parce que j'ai pas raconté cette histoire, mais j'ai eu des conflits dans une autre boîte avec mes ex-associés, ça a été terrible, toujours pas réglé d'ailleurs, mais... En passant, mais je suis partie, j'ai créé ma boîte avec 0 euro, en pleurant, en ayant perdu je sais pas combien de kilos, j'étais pas bien, mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait, on appelle ça la résilience, parce que je me suis dit non, mais c'est pas, je vais pas m'arrêter à ça. Ma vie, elle va pas s'arrêter là. Il faut que je continue, et je me raccroche aussi beaucoup au rôle modèle que j'ai envie d'être pour mes enfants, que ce soit ma fille ou mon fils. Et c'est vrai qu'ils le voient, ils me le disent, hein, tu travailles beaucoup, mais ils sont fiers parce que j'ai gagné quelques prix, j'ai gagné le Black in Animation Award aux États-Unis en 2021, j'ai eu mon portrait sur CNN,
j'ai vu, oui,
dans African Voices Changemaker, quand même CNN, moi j'ai eu des messages des États-Unis, des gens qui m'ont dit on vient de te voir sur CNN, c'est la folie. Il y avait dans ce reportage, c'est comme les célébrités, ils parlent de mon enfance, on me voit avec ma poupée noire qui s'appelait Arnold, en référence à Arnold et Willy que je regardais quand j'étais petite. Donc j'ai eu tout ça, je suis membre des Emmy Awards, comme tu le disais, les Emmy Awards, l'Académie, c'est l'Académie internationale qui est à New York. Donc j'ai cette reconnaissance qui prouve que ce que je fais est bon, ce que je fais est juste. Et je vais dans la bonne direction et je vais continuer. Du coup, à chaque fois, chaque succès m'encourage à ne pas lâcher et à continuer. Et c'est dur.
Est-ce que tu t'écoutes, en fait ? Quand je t'écoute parler de ton parcours et du fait que voilà, t'es tombée, tu t'es relevée, etc., j'ai l'impression quand même d'avoir une femme devant moi qui croit beaucoup en elle, qui puise la force en elle, même si j'entends ton entourage t'apporte aussi de la force. Mais je pense que la force, on la puise en nous, ouais. Et cette confiance, on la puise en nous. Et tu le racontes avec beaucoup d'humilité, et je pense que ta force, c'est ça. Tu fais confiance à ton intuition aussi, je pense.
Oui.
T'as cette notion de prise de risque qu'on trouve moins chez les femmes et plus chez les hommes. Mais oui, aujourd'hui, toi, tu montres par la preuve que cette compétence, pour moi, c'est une compétence, prendre du risque, c'est pas donné à tout le monde. Bah, tu as pu la manier, tu as pu te l'approprier. Et grâce à ça aussi, que tu en es là aujourd'hui.
Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, le mot sororité, parce que j'aime bien solidarité, mais c'est parce que je m'inspire beaucoup des hommes. C'est pour ça que les questions sur ma vie perso m'agacent dans le cadre professionnel. Et c'est pour ça que je prends des risques. Parce que je me dis, et si j'étais moi, je me mets dans la peau d'un homme. Je me dis, et si j'étais un mec ? Les hommes n'attendent pas d'être prêts pour se lancer. Donc, ils peuvent lancer leur boîte avec 0 euro, avec une petite idée. Et puis, voilà. Moi, je sais que je déborde sur le temps, mais une anecdote toute simple. Quand j'ai créé ma boîte en 2020, en 2019, j'ai travaillé sur mon business plan. Et quand on m'a accompagnée pour ça, parce que je ne savais pas ce que c'était, je n'ai pas fait d'école de commerce, les personnes m'ont dit, on va t'aider à faire ton BP. Et moi, pour moi, BP, c'est une station d'essence.
Tu as eu l'humilité de poser la question parce que tu avais envie d'apprendre.
Exactement. Et maintenant, voilà. Je sais ce que c'est qu'un business plan. J'en ai un qui fait une centaine de pages. Non, j'en ai trois. J'ai des tas de business plans, j'ai des tas de versions. Mais c'est vrai que la première fois, je ne savais pas. Mais je n'avais pas honte de le dire. Au contraire, j'ai même fait la blague. Pépé, la station d'essence, on ne va pas mettre de l'essence là. Mais non, ce n'est pas grave. J'ai appris. J'ai passé un an à travailler sur ce fameux business plan. Je posais des questions. Je dis, je me sens bête. Non, c'est pas grave, vas-y, pose tes questions. Et je continuais, j'ai fait mon étude de marché, j'ai fait mon business model et j'ai appris ce que c'était que le PNL, alors que moi, ça voulait rien dire pour moi en 2018, hein, je ne savais pas, PNL, ouais. Et tout ça, je suis constamment en apprentissage.
Et c'est ça la vie d'une entrepreneuse, d'un entrepreneur, c'est avoir justement cette résilience et cette envie d'apprendre et de ne pas se reposer sur ses acquis. Et un mot de la fin ?
De la fin ? Moi, j'ai envie que tout le monde vivez vos rêves. Allez-y à fond. Bon, je n'ai pas été poursuivre le rêve d'être actrice, mais je suis quand même pas mal en photo dans les magazines. Et je suis sur scène, je prends le micro. Et mon rêve aussi, c'est que j'adore voyager à travers le monde. Et j'ai fait en sorte de concilier ça avec mon entreprise. Et c'est possible. C'est possible. Et encore une fois... Je ne suis pas une super-héroïne. Si moi, j'y arrive, vous pouvez y arriver.
Alors, croire en ses rêves et sa passion, avancer en dépit des obstacles, une belle leçon de vie donnée et partagée par Mounia Aram aujourd'hui dans cet épisode. Mounia, un grand merci.
Merci à toi de m'avoir reçue.
Merci Mounia.